les voies de service et 2019. Bonjour, Isabelle Falardeau au micro, en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Jean-Sébastien Laliberté, aux chroniques et à la mise en onde aujourd'hui.
Bonjour, groupe.
Aujourd'hui, moi, je vais vous parler, c'est la semaine de prévention du suicide. Alors, comme c'est j'ai déjà un blanc, ça va bien. Une chose.
Un sujet.
Enfin, c'est un fléau qui est encore plus répandu parmi les Premières Nations que dans la population générale. Ça allait de soi que je parle du suicide et j'ai trouvé un article intéressant là-dessus. Et de votre côté, vous allez nous parler de guitare, les garçons,
en première partie. On a deux articles qui parlent de guitare. C'est un hasard, c'est arrivé comme ça, mais on a décidé de les mettre
dans
la suite de l'autre, oui. Et aussi, en première partie, je vais vous parler des résultats d'une audition. Qui avait été résultat assez négatif pour un chanteur qui est quand même très connu.
Ah, intéressant.
Il avait été traité d'amateur qui chante faux.
Il y a quelqu'un qui doit s'en mordre les doigts aujourd'hui.
Ah, en tout cas, ça ne lui a pas empêché d'avoir une très belle carrière.
J'ai hâte de voir ça. Alors, comme j'aime souvent le faire, je commence avec mon sujet déprimant, malgré que j'ai quand même trouvé un article qui parle du suicide de façon positive, enfin, qui aborde plutôt les côtés positifs de la prévention plutôt que les côtés négatifs de quand on ne réussit pas à prévenir. Alors, c'est un article qui a été publié le 4 février sur le site Espace autochtone de Radio-Canada et c'est signé Yannick Donahue. Alors, la campagne nationale de lutte contre le suicide dans les communautés autochtones au Québec vise à ce que les personnes atteintes d'idées suicidaires puissent en parler à un proche, à un ami, à un parent ou à un voisin. C'est la 29e semaine nationale de prévention du suicide, du 3 au 9 février, et on a décidé de conserver le même thème que l'an passé, « Parler du suicide sauve des vies ». L'Association québécoise de prévention du suicide, qui est derrière l'événement national, rappelle l'importance de parler pour agir en prévention du suicide. Leur site Internet indique qu'individuellement, mais aussi en tant que société, c'est en ouvrant le dialogue et en étant à l'écoute que nous arriverons à renforcer le filet humain autour des gens vulnérables. Et l'enquête régionale sur la santé des Premières Nations au Québec de 2015 nous apprend qu'une personne sur 10 âgée de 12 ans ou plus résidant dans les communautés perçoit sa santé mentale comme étant passable ou mauvaise. 12 ans et plus, là, c'est... Et plus précisément, l'étude révèle que 16% des Autochtones de 12 à 17 ans présentent des signes de détresse psychologique modérée ou élevée et que les principaux problèmes de santé mentale rapportés pour ce groupe d'âge sont les troubles anxieux et les troubles de l'humeur. De plus, le document indique que les femmes sont plus nombreuses à présenter des signes de détresse psychologique modérée ou sévère que les hommes. Ce que ça dit pas, j'ai pas trouvé l'information non plus, j'aurais aimé ça de savoir, parce que dans la population générale, on sait que la prévalence du suicide est vraiment beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes, mais vraiment d'une façon impressionnante. Et là, on nous parle qu'il y a une plus grosse proportion des femmes qui ont des signes de détresse, mais est-ce que ça se traduit en suicide ou est-ce que c'est la même chose chez les Premières Nations? Ça, j'ai pas trouvé l'information, malheureusement. Mais on sait que le taux de suicide est de 5 à 6 fois plus élevé chez les jeunes autochtones que la moyenne nationale. Donc, 5 à 6 fois, c'est beaucoup. Mais encore une fois, on ne dit pas comment ça se répartit homme-femme. Dans certaines communautés, le taux de suicide chez les garçons dépasse 100 suicides pour 100 000 habitants. Dans le but d'améliorer le quotidien des Autochtones, et là, c'est la première fois que je vais utiliser une abréviation qui ne sera pas nécessairement très utile pour sauver du temps, mais la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc la... Pour le reste du texte, ça va être la CSSSPNQL.
Oui, on va se souvenir de ce que ça veut dire.
A travaillé sur un élément fondamental de la prévention et du mieux-être, soit la promotion de la vie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme approche. Dans les communautés, on voulait mettre l'accent sur la promotion de la vie au lieu de la prévention du suicide. Ça, c'est comme un peu comme avoir un pare-choc ou un bumper en anglais.
Non, mais je comprends, je comprends le principe.
On se prépare à quelque chose plutôt que de prévenir. Mais donc, c'est pourquoi on a créé des outils... c'était pas un bon exemple. On oublie ça. C'est pourquoi on a créé des outils pour cette semaine-là. Donc, ça, c'est Natacha Hervieux, qui est conseillère en mieux-être et prévention des dépendances à la CSSSPNQL, qui nous le dit. Donc, l'équipe de ce même acronyme a donc développé ce qu'elle appelle « Mon journal créatif », qui constitue un cahier qui permet d'apprendre à se connaître grâce à des activités positives et stimulantes. Le journal vise à favoriser la réflexion, la découverte de soi et la mise en action positive. Il est inspiré des quatre éléments de la roue de médecine, représentant les aspects mental, physique, émotionnel et spirituel. L'idée est d'outiller la personne à se développer dans une perspective holistique. C'est comme un carnet. C'est encore Natacha Hervieux qui nous l'explique. On a des questions sur ce que la personne aime, sur un bilan personnel global, sur son alimentation, sur ses valeurs. Apprendre à se connaître un peu plus par écrit. On a aussi des facteurs de protection là-dedans, comme comment la personne peut avoir des objectifs cette année. C'est vraiment ludique. On y retrouve notamment de la documentation, des conseils, une liste de ressources avec leurs coordonnées, etc. On parle aussi beaucoup de la culture, de son importance. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour connaître davantage leur culture, les activités culturelles? La clientèle visée, tous les membres des Premières Nations vivant au Québec. Le cahier a été distribué dans les écoles pour les jeunes autochtones. Madame Hervieux souligne en plus que les centres de traitement autochtones contre les dépendances font partie de la solution. Elle mentionne que le cahier peut y être utilisé pour accompagner l'individu dans sa démarche de guérison, tout comme il peut servir dans les relations entre les autochtones et les intervenants sociaux. Ce cahier peut être utile avec l'intervenant en communauté et le client. En fait, ils peuvent le faire ensemble. Le cahier peut créer des échanges entre eux. La conseillère précise que tous les intervenants dans les communautés ont reçu la formation donnée par la Commission sur la façon d'intervenir en prévention du suicide chez les Premières Nations. Et on parle de guitare?
Pas tout de suite.
Ah, pas tout de suite, excusez-moi. Non,
on parle
d'un quelqu'un qui jouait de la guitare, par contre.
Oui, quelque chose que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr, un titre qui a attiré mon attention. Un amateur qui chante faux. Le jour où la BBC est passée à côté de, devinez qui? David Bowie.
Le chanteur de Pink Floyd.
Entre autres. Un documentaire prochainement diffusé au Royaume-Uni relève un compte-rendu étonnant après une audition du chanteur révélé par le titre Space Oddity, ça a été son premier grand succès dans le fond, et décédé en janvier 2016, organisé par le service public britannique en 1965.
Et ça, c'est vraiment terrible, la personne qui l'a rejeté.
Ouais, c'est pas la première fois qu'une chose comme ça arrive, mais ça, c'est quand même assez flagrant.
Quelqu'un qui devient aussi gros
peut-être que c'est vrai qu'il chantait faux. On sait pas. Après avoir vu la critique, il a engagé un coach vocal et puis bon. Donc, documentaire prochainement diffusé au Royaume-Uni relève un compte-rendu étonnant après une audition du chanteur révélé par le titre Space Oddity et décédé en 2016. Un amateur qui chante faux, l'implacable verdict provient d'un compte-rendu d'audition rédigé en 1965. Mon Dieu, il répète la même affaire.
Mais tantôt, c'était 69, non?
Non, le 69, c'est quand il a sorti.
Ah, c'est Space Oddity. Excusez-moi.
Donc, c'était le 2 novembre 1965 et le musicien britannique, alors âgé de 18 ans, joue avec son groupe David Bowie and the Lower Third.
Peut-être qu'il n'avait pas fini de muer.
Ah, ben c'est possible. Je sais pas, 18 ans. Il était encore dans... Pour une équipe chargée de jauger le niveau des artistes susceptibles de passer sur les ondes de la BBC, raconte le documentaire David Bowie, Finding Fame, qui sera diffusé le 9 février sur la chaîne BBC 2. Donc, c'était la semaine dernière.
C'est ce samedi.
On est quoi aujourd'hui? Le 6?
Oui, non, je sais, tantôt. Le 9 février, j'ai noté ça, mon calendrier. Les Canadiens jouent contre Toronto.
Ah, OK, bon.
Donc, ça va être à CBC, je vais pas le regarder.
OK. Donc, à l'époque, David Bowie évolue dans le milieu de la musique depuis quelques années, mais le succès tarde à venir. Et tu n'es pas patient quand même, 18 ans.
Oui.
On se calme un peu. Et la BBC constitue une opportunité en or de se faire connaître du grand public. Mais après avoir joué 3 titres, un de Bowie, une reprise de James Brown et Chim Chim Cherry de Mary Poppins.
Oh, mon Dieu.
J'imagine mal David Bowie avec un groupe. Mais bon. C'est original quand même.
Oui, c'est...
Le groupe se voit notifier un refus. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas vraiment de défaut musicalement, c'est juste qu'il n'y a rien d'intéressant dans tout ce qu'ils font. Ça commence bien.
Mais c'était pas juste lui, c'était collectivement pour son groupe.
Ça, c'est un des membres du panel de la BBC qui a dit ça dans le compte-rendu. Un autre a dit « Le chanteur n'est pas très emballant. »
Ah, mon Dieu!
Et l'autre qui dit... un amateur qui chante faux. Ou je ne pense pas que le groupe s'améliorera avec davantage de répétitions. Donc lui, c'est un verdict de on va pas plus loin avec ça, c'est fini.
C'est fini.
Là, les observateurs se distinguent toutefois en jugeant le style de la formation plutôt différent des groupes du moment. C'est peut-être juste une façon polie de dire, regarde, ça.
Il essaie de trouver quelque chose de positif.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc, David Bowie n'accédera à la célébrité que 4 ans plus tard, en 1969, avec la chanson Space Oddity. Avant de devenir une légende de la pop. Il est décédé en 2016 des suites d'un cancer, 2 jours après avoir sorti son dernier album à l'occasion de son 69e anniversaire.
Oh my.
La lettre de la BBC n'est pas sans rappeler plusieurs refus célèbres dans l'histoire de la musique ou des arts. En 1962, le producteur du label Decca Records, Dick Rowe, recale une cassette de... qui, vous pensez? Popping oh, Floyd.
King D, dans 62, je ne sais pas.
Des Beatles.
Ah oui, hein?
Ouais, eux autres, ils n'étaient pas très bons. Il n'y avait aucun avenir. Donc, une décision considérée comme la plus grande erreur de l'histoire de la musique.
Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar.
C'était environ 5-6 ans après cette belle audition qu'il a échoué, David Bowie, 1971. Ben, enregistré en 71, sorti en 72, la pièce Ziggy Stardust, tirée de l'album avec un titre beaucoup plus long, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. C'est une phrase complète.
J'avais oublié ça.
Ça aussi, il devrait avoir un acronyme pour résumer. Et parlant de Stardust, je vous en reparlerai une autre fois, mais il y a un biopic sur la vie de David Bowie. mais juste sur cette époque-là de Ziggy Stardust qui va commencer à être tourné l'été prochain.
Ah, oh, c'est intéressant.
Donc, je vais vous revenir avec ça.
Et il termine en disant que Ziggy jouait de la guitare.
Oui, et bien, il dit justement... aussi qu'il jouait de la main gauche. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Ah, ça, j'ai pas remarqué.
Il played
it
left hand parce que, bon, oui, il était gaucher aussi. Uh-huh. Et ça, si on veut. Quand on regarde quelqu'un qui joue de la guitare, c'est facile à voir hein, sur quel côté. Bon.
Oui. Parlant de. Effectivement. Mais quand on l'entend, c'est moins évident, par exemple.
Ça paraît pas autant.
À l'oreille, non.
Ça paraît pas autant. Parlant de guitare, vous connaissez Jimmy Page? Qui était le guitariste de Led Zeppelin.
OK, merci.
C'est quand même un groupe qui a été assez
ouais,
connu dans
groupe.
Les années 70. Jimmy Page et Fender, ça c'est la compagnie qui fabrique des guitares, s'associent pour recréer une de ses guitares mythiques.
Ah oui?
On dit 4 répliques des célèbres Telecaster. Telecaster, ça c'est un nom de modèle de Fender qui produisent depuis les années 50 puis qui en produisent encore aujourd'hui.
Ça c'était avant la Stratocaster?
Juste avant, oui. Mais okay. Ils en produisent encore aujourd'hui. Donc ça,
j'essaie de suivre quand vous me
parlez. Non, c'est mais... quand même bon. Là. Donc, 4 répliques des célèbres Telecaster Mirror et Dragon. Ça, c'est les deux noms des guitares de mm-hmm. Jimmy Page. On parlait justement des guitaristes qui donnaient des noms la semaine
oui.
dernière.
Eh oui,
exactement.
Et on, ah, ça
voilà
confirme.
Donc,
oui.
J'étais vraiment dans le champ. Donc, Mirror et Dragon de Jimmy Page seront mis en vente un peu plus tard dans l'année. Le guitariste des légendaires Led Zeppelin, Jimmy Page, n'en finit plus de célébrer la mémoire de son illustre groupe. Dans le cadre du cinquantenaire de Led Zeppelin One, déjà, j'en reviens pas, ça ne rajeunit pas, ouais. C'est le cinquantenaire de bien des choses cette année, j'ai l'impression.
Mais c'est ça, vous étiez né. Moi, je suis encore capable de dire que je n'étais pas né là, pour toutes les cinquantièmes, mais ça s'en vient.
Ouais, j'ai vu toutes ces choses.
Donc,
il s'associe avec Fender pour recréer 4 répliques de ses Fender Telecaster Mirror et Dragon, utilisées notamment pour l'enregistrement de l'album, mais surtout célèbres pour leur look très particulier. Pour rappel, la Telecaster originale utilisée par le maître date de 1959, une véritable pièce de collection. Les 2 premières itérations seront vendues d'ici mars prochain sur le Fender Custom Shop à un prix annoncé comme étant à la hauteur de la légende. Les 2 autres modèles fabriqués à la chaîne et proposés à des prix plus abordables seront disponibles entre le printemps et l'été 2019. Le Custom Shop, dans le fond, c'est que Fender fabrique des guitares en série, à la chaîne, dans une usine. Et ils ont aussi un atelier où ils sont fabriqués à la main. Ouais, sur mesure. Mm-hmm. Dans une vidéo promotionnelle, Jimmy Page revient sur l'histoire un peu spéciale de ses guitares, reçues en guise de cadeau de la part de Jeff Beck, un autre guitariste célèbre. Qui est
et
avec...
là, j'essaierai même pas.
Ça, c'est toute une histoire que je vous raconterai plus tard, mais Eric Clapton, Jimmy Page et Jeff Beck ont tous les 3 fait partie du même groupe à un moment donné, mais pas en même temps.
Pas en même temps.
Le groupe The Yardbirds.
Ah,
et ces
3-là
sont devenus très célèbres par la suite.
Bon.
Donc, en 1966, à l'époque où les 2 musiciens collaboraient au sein des Yardbirds, la Fender Telecaster 59 originale fut customisée, personnalisée en français, on dirait.
Oui, probablement, oui.
Une première fois l'année suivante, en 1967, lorsque Jimmy Page y ajouta 8 petits miroirs circulaires. Donnant le nom de Mirror. Uh-huh. Il a collé des petits miroirs sur sa guitare.
C'était...
Donc, avec les jets de lumière, ça faisait
C'était pour donner des effets.
Et
lumière.
Voilà. Quelques mois plus tard seulement, il les retirera pour la repeindre. La Dragon était née. Donc, il a fait un dessin de dragon dessus.
Alors, donc, la Mirror et la Dragon, c'est la même guitare,
c'est la
en
même.
Fait. C'est
mais
pas
il
deux
va
guitares.
En vendre 2, imagine-toi. C'est un petit peu ratoureux.
Ouais, c'est un peu triché.
C'est de cette guitare qu'il joue sur l'album live Yardbirds 1968. Les premières pièces vendues via le Fender Custom Shop coûteront la bagatelle de 25 000 $ l'unité.
Wow.
Ça, je trouve ça vraiment excessif, là, mais bon. Les 50 exemplaires étant vendus accompagnés de leur certificat d'authenticité.
J'espère qu'ils vont
tant
être signés avec le sang de Jimmy Page.
Je ne sais pas avec quoi, mais je trouve que c'est quand même exagéré. Côté modèle de série, la Mirror sera vendue 2499 $. Et la Jimmy Page Telecaster One, 399 $. Ça, c'est un petit... Là, je comprends pas.
Ça, c'est celle qui est vendue à la chaîne, là, pas customisée, comme disent nos cousins.
C'est ça.
Mais fait que même celle qui est faite à la chaîne, la Dragon, elle coûte 4000
$. 2499.
Okay.
C'est ça quand même plus dans les prix d'une bonne,
guitare
faite.
Okay.
Mais même à ça, je trouve ça un peu cher. Mais bon. Je ne sais pas quel est l'avantage de posséder une guitare à 25 000 $ là,
sauf j'imagine s'il y en a juste 50, c'est ça. C'est pour c'est ça.
Quelqu'un qui a bien de l'argent et il se dit, ben, Jimmy Page va bien mourir un jour. Là.
Il va rajouter ça dans sa salle de commémoration de Jimmy Page.
Quelque chose du genre. Donc, utilisé entre son passage chez les Yardbirds et l'enregistrement de Led Zeppelin One, la Telecaster 59 originale de Jimmy Page fut dans un premier temps dégradée. En rentrant de tournée en 1969, il découvre qu'un ami a complètement modifié le corps en repeignant par-dessus le motif de dragon. C'est un peu plate, ça. Comme...
Mais là, il va peut-être pouvoir en vendre un troisième modèle. C'était quoi le dessin?
Celle de la Dragon repeinte.
La Undragoned.
La Undragoned. Des changements qui changèrent l'instrument en profondeur jusqu'à son, apparemment. Ça devait être très subtil comme changement, mais bon. Ouais. Ne rendant plus que le manche utilisable, manche auquel il était tellement attaché qu'il le fit installer sur une autre télé. Ça, c'est l'avantage des télécasters. On peut juste dévisser le manche. 4 vis pour une vis sur une autre.
Okay.
Le corps original, quant à lui, fut restauré quelques temps plus tard.
On va continuer à parler de guitare. On pense que 25 000 $ c'est cher pour une guitare.
Oui, je trouve quand même.
Je suis d'accord, mais il y a pire. Il y a pire, beaucoup plus cher que ça. Et on parle de la Black Strat de David Gilmour. Qu'a donc de si spécial la Black Strat de David Gilmour? Donc, on parle de Pink Floyd.
D'une Fender, mais une Strat cette fois-ci.
Oui. Et on ne parle plus de Led Zeppelin. On parle de Pink Floyd. Donc, c'est paru sur Radio-Canada hier par Bernard Barbeau. Le guitariste et chanteur britannique David Gilmour, l'un des piliers de Pink Floyd, a annoncé la semaine dernière qu'il allait bientôt vendre aux enchères pas moins de 120 de ses guitares afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. L'inclusion dans le lot d'une Fender Stratocaster noire a causé un certain émoi. Voici pourquoi. Si on a à nommer les plus grands guitaristes de tous les temps, David Gilmour, Jimmy Page et Jimi Hendrix sont les principaux noms qui vont sortir, souligne en entrevue le musicien et producteur Richard Petit, qui a notamment mis sur pied le spectacle Space, The Best of Pink Floyd et The Wall Extravaganza. Un avis que partage le bluesman Steve Hill. J'ai acheté une pile d'albums de Pink Floyd quand j'avais 12 ans, c'est une des grosses raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire de la musique. Gilmour, à la base, c'est un guitariste de blues, explique-t-il. Quand il a embarqué dans Pink Floyd, il a amené cette influence-là. Du point de vue de la lead guitar, c'est du blues qu'il joue. C'est seulement la forme en dessous qui change. Il a pris le blues et l'a amené dans une zone unique, abonde Richard Petit. C'est la maison londonienne Christie's qui a reçu le mandat de vendre les guitares de David Gilmour, ce qu'elle fera le 20 juin. D'ici là, les instruments seront exposés à Londres, à Los Angeles, puis à New York. Quand j'ai vu ça passer, j'ai regardé ma femme et lui ai dit « Bon, on va vendre la maison », lâche Richard Petit à la blague. « S'il y avait une guitare sur la planète dont je voudrais avant n'importe laquelle, même celle des Beatles, c'est la Black Strat de David Gilmour.
Oui. »
Dans 200 ou 300 ans, ce sera comme si on avait le piano de Mozart ou de Beethoven, avance-t-il. C'est l'instrument de prédilection d'un génie de la musique. Pourquoi cette guitare-là est mythique? Pour la même raison que le Saint Graal est mythique. On parle de la guitare dont il a joué sur l'album le plus populaire de tous les temps. Ça, c'est Steve Hill qui nous dit ça. Il fait référence à Dark Side of the Moon, lancé en 73, dont plus de 45 millions d'albums ont été vendus.
Quand même!
Le rédacteur en chef du site Brain Damage, dédié à Pink Floyd, fait valoir combien de guitaristes ont un instrument qui, comme celui-ci, est immédiatement reconnu autant par ceux qui jouent de la guitare que ceux qui n'en ont jamais joué. Alors, la petite histoire de la Black Strat, fabriquée par Fender il y a 50 ans, elle est usée à souhait, cette guitare-là. Il l'avait achetée en 1970 à la boutique Manny's à New York. Elle est vite devenue son instrument principal en studio comme sur scène et celui auquel les amateurs de rock l'ont le plus identifié. Il l'a modifié à maintes reprises au fil des ans, a changé les micros de manche, a percé des trous pour installer divers gadgets. On ne parle pas de miroir ou de boule disco, donc je ne sais pas trop.
Ouais, mais là, elle n'est même pas neuve dans sa boîte. Il y a des trous dedans, puis ils veulent nous vendre ça des millions de dollars.
C'est pas correct.
On dit même qu'il l'a torturé et a expérimenté dessus, faisant chaque fois évoluer ses sonorités. Outre Dark Side of the Moon, il en joue sur les albums de Pink Floyd Metal en 71, Wish You Were Here en 75. La pièce Shine On You Crazy Diamond est sortie de cette guitare, soutient Gilmour. L'album Animals en 77 et The Wall en 79, entre autres. Également Momentary Lapse of Reason en 87 et Endless River en 2014. Donc, presque toute la durée de vie du groupe. Il avait avec lui quand le Quatuor a fait les belles années de Pink Floyd, quand il s'est réuni en 2005 sur la scène londonienne devant plus de 3 milliards de téléspectateurs dans l'événement Live 8. Donc on l'entend jusque sur l'album Rattle That Lock en 2015. Les sons émanant de cette guitare ont touché la vie d'innombrables personnes, qu'ils le réalisent ou pas, signale le fondateur du site web. Quand tu vois un guitariste qui a la même guitare à côté sur lui pendant si longtemps, ça devient sa signature, affirme Richard Petit. La guitare lui a donné des albums et des tournées mémorables. Elle est une colonne du temple du rock. La légende entourant cette six cordes est telle qu'un livre lui est entièrement consacré, qui s'appelle Pink Floyd The Black Strat.
Quand même.
L'auteur Phil Taylor a été technicien de tournée du groupe pendant des décennies. Ensuite, on parle de pourquoi Gilmour, qui aura 73 ans dans un mois, se défait de cet objet si important. Il dit « Je ne suis pas trop sentimental quant aux qualités dont un instrument particulier est censé être imprégné. Vous savez quoi? Je peux m'en passer. Fender en a fait des répliques. J'en ai d'ailleurs deux, trois qui sont parfaites. L'une d'elles pourrait devenir ma guitare de prédilection et peut-être même, horreur, que je changerai de couleur. » Alors, 25 000 $ c'était trop. Christie's estime la valeur de l'instrument entre 130 et 200 000 $ mais elle pourrait être vendue beaucoup plus
ben
si un acheteur
dramatique. Ça pouvait se rendre à un million.
Il y a bien des chances que ça se rende pas loin de ces chiffres-là. Alors, on va écouter un extrait de cette mythique guitare, la partie 2 de Shine On You, Crazy Diamond.
Les voies de service, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, de mon côté, je vais vous parler de tourisme et d'hébergement dans les communautés Innus, si ça peut vous donner des idées pour vos vacances. Et de votre côté, Jean-Sébastien, vous avez d'autres sujets à nous présenter?
Oui, je vais vous parler du disquaire britannique HMV. Qui a disparu au Canada, mais qui était encore présent à quelque part sur le globe. On va savoir qu'est-ce qui arrive avec HMV. Puis je vais vous parler également d'un album qui va paraître bientôt, d'un artiste que je ne connais pas. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est sur quoi l'album va paraître. On ne parle pas d'un CD, on ne parle pas nécessairement de streaming.
Ah non!
Non, ça a piqué ma curiosité. Peut-être que ça va piquer la vôtre également.
Ah, j'ai hâte de voir ça. Oui, sur YouTube. Et de votre côté, Daniel?
Vous connaissez le réalisateur Peter Jackson?
Oui.
Seigneur
ben oui.
des Anneaux,
ben
tout oui. ça. Bon, il prépare un documentaire sur un groupe très connu, je vous dirais c'est qui.
Donc, merci beaucoup. À Alors, même si le printemps, c'est juste dans 2 mois, et bon, non, un mois et demi...
que c'est dans 1 mois, là. Pas dans 2.
Ouais, mais...
Non, 1 mois et demi, c'est vrai.
On est quand même à Montréal. Et ben, en fait, nous, c'est qu'on a un printemps toutes les 2 semaines.
Ouais.
Pendant
l'hiver. Mais il ne durait pas.
Mais, alors, c'est ça, si jamais vous voulez des idées, j'ai un article que j'ai pris sur le site de Radio... En fait, c'est la chronique économique de Luc André. Sur le site de Radio-Canada, « L'hébergement et le tourisme, une niche pour les commerçants Innu ». C'est un article qui a été publié le 2 février. La filière de l'hébergement et du tourisme est encore peu explorée par les Innu de la Côte-Nord. Et il semble que ce soit d'abord les femmes qui investissent ce secteur économique. Sans compter le conseil de bande de Washat Mac Manutenam qui s'est lancé dans l'aventure de se doter d'un hôtel avec un succès certain. L'économie Innu se conjugue aussi au féminin. Deux femmes Innues opèrent chacune une entreprise touchant l'hébergement des touristes et des visiteurs. Vous allez peut-être reconnaître le nom de José Leblanc, dont je vous ai parlé la semaine dernière, avec ses bottes là, à plusieurs milliers de dollars, j'ai déjà oublié combien, mais il y a aussi d'autres objets là, qui sont fabriqués par son équipe d'artisanes. Alors, à Ouachat, elle est propriétaire de la boutique hôtel dont je vous parlais, Agara. L'établissement met 10 chambres à la disposition des clients. La décoration des habitations rappelle la culture traditionnelle des Innu et illustre la vie nomade dans le territoire du Nitassinan. La boutique hôtel crée ainsi de l'emploi tout en faisant travailler 7 artisans qui fournissent la boutique d'artisanat de l'hôtel. José Roque, de son côté, a préféré investir dans le complexe MV de Havre-Saint-Pierre. On parle d'une affaire importante, on compte 100 chambres et le nombre d'employés atteint 15 personnes. L'entrepreneur, qui est aussi propriétaire de l'épicerie Innu à Malioténam, a le souci de retenir le plus possible ses employés. Le salaire horaire est de 15 $ de l'heure, alors que dans la plupart des établissements du genre, c'est plutôt le salaire minimum qui constitue la norme. Durant la saison estivale, l'entreprise cible les touristes venus visiter l'archipel de Mingan. Il y a quand même des choses vraiment intéressantes à voir dans le coin. Et l'hiver, la clientèle est constituée avant tout de visiteurs qui participent à des tournois de hockey. Et finalement, on trouve cette fois à Ouachat, le complexe hôtelier que le conseil de bande Innu Takwaikan Ouachat Makmanutenam a inauguré en 2015 sous la bannière Quality Inn. Alors eux, ils sont allés avec une chaîne, mais c'est vraiment une couleur Innu qu'ils ont donnée à leur établissement. Un investissement majeur de 8 millions de dollars, cet hôtel situé à l'entrée de la communauté et de la ville de cette île, compte 61 chambres avec salle de réunion et une salle de réunion au pluriel et une salle à manger pour les petits déjeuners. Le taux d'occupation est de 80 % à l'année, ce qui est quand même bien respectable pour un hôtel. La clientèle est composée à 25 % d'Autochtones. L'hôtel emploie plus de 25 personnes, dont 95 % sont des Innu. Selon la directrice de l'hôtel, Mylène Babin-Duclos, le roulement du personnel est important. C'est particulièrement le cas à la réception, où la connaissance de l'anglais est importante. Or, peu d'Innu maîtrisent cette langue. Les employés sont syndiqués, ils profitent d'avantages sociaux et gagnent tous 15 $ de l'heure et plus. Le roulement de personnel, comme on le disait, est important en raison d'horaires difficiles, très souvent incompatibles avec la vie de famille. Ce qui n'empêche pas l'hôtel, qui appartient aux Innu, de connaître du succès. Depuis 3 ans que l'hôtel existe, nous connaissons toujours des surplus d'opérations. Les 2 dernières années, nous avons gagné 2 prix de reconnaissance pour la qualité de notre service. Et ça, c'est pas peu dire, avec un gros roulement de personnel, de gagner des prix pour le service, là, c'est vraiment bien. Alors, ces prix annuels célèbrent les propriétés les mieux cotées parmi un peu plus de 325 hôtels de la chaîne Choice Hotel, à laquelle appartiennent les Quality Inn. Les hôtels qui remportent un prix or doivent se classer dans le premier 10 % des hôtels les mieux cotés par les clients. Selon le consultant Guy Conrad Bouchard, qui est un habitué de l'hôtel, le service est de grande qualité et les réceptionnistes, comme les préposés aux chambres, sont polis et respectueux et la propreté est impeccable. Pour lui, les promoteurs ont bien fait leur travail. D'abord, ils ont bien choisi l'emplacement de l'hôtel, qui est situé sur la route 138 à l'entrée de la ville de Sept-Îles. L'hôtel a en plus été construit sur les terrains du centre commercial, les Galeries Montagnaises, qui appartient aussi aux Innu et qui permet aux visiteurs de pouvoir magasiner à proximité. Et finalement, l'hôtel permet l'accès à pied à des restaurants et au musée Chapoutouan consacré à la culture Innu. Ces différentes expériences en tourisme et en hébergement montrent qu'il s'agit là d'une filière qui peut devenir rentable. La base demeure la qualité des services. La valeur ajoutée que peuvent y apporter les Innu a trait à leur culture singulière, car de plus en plus de visiteurs se montrent curieux de l'histoire et de la vie des Premières Nations. Thank you.
Est-ce que vous côtoyez encore des disquaires? Est-ce que vous allez faire des tours des fois dans des commerçants de disques?
Rarement, parce qu'on n'en trouve
tellement
plus.
Tellement pas,
ça a disparu.
Moi, je me souviens justement du gros HMV au coin de Peel et Sainte-Catherine. J'allais là régulièrement.
La dernière fois que je suis allée chez Archambault, c'était pour acheter des jeux vidéo pour les enfants. Ouais, je pense que c'était des Scalenders.
Ouais. je vous parle du disquaire britannique HMV qui a disparu du Canada, de notre paysage, justement, qui a fermé ses portes il y a quelques temps, qui avait été repris par le distributeur canadien Sunrise. Donc ça sort de l'AFP. C'est paru hier. Le célèbre disquaire britannique HMV a été vendu à la société canadienne Sunrise, qui va reprendre une majorité des magasins de l'enseigne en faillite, a annoncé mardi son administrateur judiciaire. Donc, juste pour la précision, au Canada, c'était déjà Sunrise qui avait repris les baux de HMV, mais ailleurs sur la planète, notamment en Angleterre, HMV n'avait pas encore fermé boutique. HMV avait été contraint de faire faillite fin décembre pour la seconde fois en près de 6 ans, en raison de difficultés financières persistantes dans un contexte de déprime du marché du disque et du DVD face à l'essor, entre autres, de l'écoute de la musique en ligne. Le cabinet KPMG, qui a été nommé administrateur de la société, avait pour objectif de trouver un repreneur, a annoncé dans un communiqué le disquaire qui allait être vendu au groupe canadien Sunrise. Mais c'est ça, ça vient du Canada, ceux qui reprennent le succès de HMV, mais en fait le succès, disons donc.
Un succès comparable à Théo Taxi.
Le repreneur va conserver la marque HMV, va acquérir 100 magasins au Royaume-Uni et préserver ainsi 1487 emplois.
Quand même.
En revanche, 27 points de vente vont être fermés, ce qui va se traduire par 455 licenciements. Parmi les magasins qui vont fermer boutique figure le plus emblématique, situé sur l'avenue commerçante Oxford Street, dans le centre de Londres. On imagine que le loyer doit être quand même assez cher versus les ventes. Mais c'est quand même un gros symbole, ça parle beaucoup. Doug Putman, qui est le propriétaire de Sunrise Breaker, dit « Nous sommes heureux d'acquérir la plus célèbre entreprise de musique et de divertissement du Royaume-Uni. Il voit dans ce rachat l'occasion de proposer aux consommateurs une gamme diversifiée de contenus physiques et de répliquer notre succès au Canada. » Interrogé sur la BBC mardi, M. Putman a expliqué vouloir mettre l'accent sur la vente de vinyles qui revient dans l'air du temps et qui sont recherchés par les connaisseurs, les collectionneurs et les DJ. Les gens aiment venir dans un magasin, dit-il, vivre une expérience et parler avec quelqu'un qui aime la musique, la vidéo et le divertissement. Il y a tant de choses que vous obtenez dans un magasin que vous ne pouvez pas avoir en ligne. Pour un analyste de chez AJ Bell, compte tenu du déclin des ventes de CD et de DVD, HMV ne peut pas compter que sur la résurgence des ventes vinyles qui pourrait, selon lui, n'être qu'un engouement passager.
Ça, c'est vrai, on ne le sait pas.
HMV avait fait faillite une première fois en 2013, souffrant de l'essor des ventes en ligne, avant d'être acheté dans la foulée pour 50 millions de livres par une entreprise spécialisée par la restructuration d'entreprises en difficulté. Le premier magasin HMV, acronyme qui signifie His Master's Voice, la voix de son maître.
RCA Victor,
ça, dans le fond, c'était le slogan de RCA Victor.
Je crois que oui.
Le chien avec le gramophone.
Oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu, c'était pour ça. Okay.
Donc, ça a ouvert ses portes en 1921 à Londres. Ça appartenait à la Gramophone Company, qui l'a doté de son logo légendaire, le chien qui écoute
gramophone. C'est ce que je cherchais.
La société est entrée dans l'histoire de la musique en 1962. On revient avec un nom qui revient assez souvent à cette émission, avec les Beatles en 62, qui ont signé à cette époque avec EMI, la maison de disques, qui a appartenu à HMV jusqu'en 1996.
On laissera un peu de soi en chacun. C'est la commande universelle. Une trace indélébile pour ce qui ne fut pas inutile dans les abîmes de l'absurde. C'est bien, c'est bien de penser que tout n'est pas. quelle une heure me dit un jour le déserteur de sa propre jeunesse. Plus on cherche, moins on ne trouve, autant pour moi qui découvre que ça vaut mieux que le contraire. C'est bien de penser que tout n'est pas vain. Je freine sur deux, trois bricoles, j'en fais tout un plat qui colle au fond de ma comédie, où je joue le rôle principal, celui d'un rêveur.
Entendre Daniel Bélanger et la pièce Paloma. On parlait juste avant de HMV du déclin de la vente des disques et il y a des oui. artistes qui ont décidé d'aller dans une toute autre direction que sur CD ou encore sur vinyle. Et je vous donne en mille, un artiste crée un album de musique sur une cartouche Mega Drive.
Oh mon Dieu! Ah, et mon ben fils oui. vient justement de recevoir une Mega Drive pour Noël. vous auriez dû voir la lumière dans ses yeux.
Alors, la petite explication. Mega Drive, moi, c'est un terme que j'ai connu assez récemment. C'est le nom de la console Sega dans les années 90. Eh oui, oui. En Amérique du Nord, on l'a connu comme étant le Genesis. Mais en Europe, ça s'appelle une Mega Drive. Alors, j'ai pris ça sur le site Numérama. Un artiste a repoussé les limites de la technologie en composant un album sur une Mega Drive. Vous ne savez plus quoi faire de votre Mega Drive qui s'allume toujours. Peut-être n'hésiteriez-vous pas à insérer la cartouche baptisée Technoptimistic. Donc, le mot techno et optimistic mis ensemble. Derrière ce nom très évocateur ne se cache pas un jeu, mais un album de musique. Imaginé par le DJ Remute, Technoptimistic a été composé sur l'illustre console de Sega, concurrente de la Super Nintendo des années 90. Voilà pourquoi l'artiste entend immortaliser sur une cartouche, en plus des versions disponibles via écoute sur Bandcamp. Donc quand même, il se laisse une autre porte.
On peut quand même écouter, ouais, c'est ça.
Attendu pour le 22 mars 2019, moyennant 33,33 euros, c'est-à-dire environ 50 $ canadiens.
Quand même.
Ben, il faut bien financer la cartouche. Hein?
Je voulais l'acheter en cadeau à mes enfants, mais là, Colin. Puis en plus, il faut se trouver une Mega Drive si on n'en a pas, parce que.
Ouais, ben, si tu veux faire.
Il faut acheter ça usagé. Hein?
Donc, il y aura 16 morceaux sur cet album-là. Il y a un premier extrait gratuit qui est disponible pour savoir est-ce que ça nous tente ou pas. Donc, un petit peu comme dans les jeux, dans le temps, on pouvait avoir un démo. Eh bien là, on nous offre une chanson. On aura affaire à de l'électro-rétro avec des sons 16 bits, donc des sonorités de jeux vidéo et Nintendo,
oui.
ce genre
c'est
de techno-là.
Intéressant.
Pour une expérience totale, le DJ encourage d'ailleurs à écouter sur une Mega Drive, sachant que la cartouche ne sera pas régionalisée, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera sur toutes les consoles du monde. Parfois, c'était le cas en programmation, en faisant en sorte qu'une console, ou encore avec les DVD, c'est encore le cas
c'est
aujourd'hui.
Oui, c'est ça, les ondes en Europe. Puis
ça peut être lu sur tel continent, mais pas sur tel autre. Donc là, ça ne sera pas protégé à l'échelle du globe, ça va pouvoir être lu.
Excellente initiative.
En revanche, elle ne pourra être lue sur une copie de la console. Je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est que depuis d'autres fabricants que... Sega qui ont sorti des consoles dans lesquelles on peut
insérer...
On pouvait
lire des cartouches, mais...
Donc, ça prend une console originale Sega. Ça peut pas juste être une machine qui lit les jeux. Ça, apparemment que ça ne fonctionnerait pas.
D'accord.
Remute n'en est pas à son premier coup d'essai. Son précédent opus, intitulé Limited, tenait sur une disquette.
1.44.
Floppy drive, là?
Oui, les petites disques, wow. Les petites disquettes sur lesquelles il rentre un meg de contenu,
1.44 meg.
Pas tout à fait une chanson. Dans les colonnes de Magnetic, il expliquait en 2017 que les morceaux n'avaient pas la touche délicate du vinyle, mais cet aspect brut qui alimente sa vision de la techno. Et bien sûr, avec des formats si limités en taille, il doit faire parler sa créativité pour repousser les limites de la technologie.
Quand même.
Philosophe, l'artiste souligne « Les machines sont à notre service. Nous programmons, elles exécutent. La technologie nous aide dans les tâches inconfortables, nous pousse à faire des choses plus osées et peut nous guérir si nous sommes malades. Si nous gardons une attitude bienveillante envers la technologie, cela améliorera nos esprits et nous emmènera plus loin. Voilà pourquoi je suis technoptimistique.
Wow! Et c'est vrai qu'il y a vraiment un courant, en tout cas porté, entre autres, par les youtubeurs français, là, de consoles rétro. Il y a toujours eu des collectionneurs, sûrement, qui gardaient leurs consoles, mais moi, mes enfants... Mon fils en particulier, là, bon, il y a une GameCube, il y a la Mega Drive, il y a, en tout cas, c'est ça. Il aimerait beaucoup avoir, je me souviens plus quelle autre console, évidemment, je ne suis pas aussi versée. Mais c'est vraiment intéressant que des artistes utilisent ça. Évidemment, c'est promotionnel un peu, là, mais...
Oui, oui, ben, c'est ça, ça fait jaser.
Ça fait jaser, voilà, exactement. Alors, il a réussi son coup. Et Daniel, vous allez donc nous parler de Peter Jackson qui fait un documentaire.
Oui, il va peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Moi, ça m'a surpris un peu. Le réalisateur néo-zélandais a mis la main sur du matériel d'origine inédit. Le mot ici est assez important. Qui devrait révéler des choses étonnantes autour du dernier album des Beatles.
Ah oui!
Il y a encore des choses inédites.
Il me semblait qu'on avait déjà fait le tour de la question et que le fils de... C'est-tu le fils de McCartney ou de Lennon ou de Harrison? En tout cas, le fils d'un des Beatles avait déclaré « Non, là, c'est la dernière fois. C'est on a sorti tout le matériel. »
Je pense que c'est Danny Harrison l'an dernier.
Ouais, ben, on avait parlé. Ça. Et là,
moi, il me semble que ça remonte en 1995 environ, quand ils ont sorti The Beatles Anthology, qui était... vraiment énorme, il me semble qu'il avait gratté partout dans tous les fonds de tiroir. Mais
peut-être qu'il y avait une vente de garage quelque part en Nouvelle-Zélande.
Il ne faut jamais dire jamais.
55 heures d'image, 140 heures d'audio. Le réalisateur oscarisé Peter Jackson, sa productrice Clara Olson et son monteur Jabez Olson, qui faisait déjà équipe pour « They Shall Not Grow Old », documentaire colorisé sur la Première Guerre mondiale, à couper le souffle, viennent de mettre la main sur un des derniers trésors cachés des Beatles. Caché où, on ne sait pas. Oui,
mais... c'est ça. On va peut-être le savoir en regardant le documentaire.
Une mine d'informations inédites capturée lors de l'enregistrement de Let It Be entre le 2 et le 31 janvier 1969. Donc, quel hasard, ça fait 50 ans.
Comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses qui font 50 ans.
Il y a beaucoup de choses qui ont 50 ans cette année. Oui. Woodstock, entre autres, et plein de choses comme ça.
Mm-hmm.
Donc, album qui sortira 18 mois plus tard, bien après la séparation du groupe. À l'origine destiné à la télévision, ces images exceptionnelles ne furent au final jamais exploitées, exception faite du dernier concert des Beatles donné sur le toit de Abbey Road à
Londres.
Dont
vous nous parlez la
semaine dernière, qui avait eu lieu le 30 janvier 1969. Au crépuscule de l'aventure Beatles, les rumeurs vont bon train concernant la mésentente entre les quatre garçons dans le vent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette expression-là. Savez-vous d'où ça vient?
Les quatre garçons dans le vent, oui.
Le premier film qu'ils ont sorti, Hard Day's Night, avait été traduit en français par Les quatre garçons dans le vent.
Ah oui,
Et voilà, là, c'est resté.
Une traduction stupide qui passe à l'histoire.
Qui
n'a
pas rapport avec le vrai titre, mais bon. Donc, mésentente entre les quatre garçons dans le vent, plus particulièrement entre John Lennon et Paul McCartney, ça, c'est pas un secret. Donc, ce n'est pas un secret pour personne non plus. Let It Be a été accouché dans la douleur. Produit, publié, très certainement, mais confectionné. Et pour rappel, Abbey Road avait sorti avant, a pourtant été enregistré après les sessions qui ont donné lieu à Let It Be.
Ah,
ça avait mêlé les cartes un peu à l'époque.
Un petit peu quand même.
Ouais. Ce n'est plus ce que pense Peter Jackson après le visionnage et l'écoute des archives de Michael Lindsay Hogg. J'ai été soulagé de découvrir que la réalité était très différente du mythe, raconte-t-il dans le communiqué d'annonce officiel. C'est tout simplement un trésor historique incroyable. Bien sûr, il y a des moments de drame, mais aucune des discordes à laquelle ce projet a longtemps été associé. Regarder John, Paul, George et Ringo travailler ensemble, créer des chansons devenues des classiques à partir de rien, ce n'est pas seulement fascinant, c'est drôle, réjouissant et étonnamment intime. Sans date de sortie ni titre, ce nouveau documentaire consacré à la fin des Beatles devrait remettre en cause quelques-unes des idées reçues autour du mythe. En parallèle de sa sortie, une version complète et restaurée du film original « Let it be » réalisé par Michael Lindsay Hogg sera également mise à la disposition du public. Et ça, ce film-là, je me souviens l'avoir vu il y a plusieurs années au cinéma quand ça avait sorti. Et après ça, ça a disparu des écrans et ça a disparu. Ça a été très, très difficile à trouver en n'importe quel format que ce soit.
Ah,
c'était à peu près. Mais récemment, j'ai réussi à mettre la main sur un DVD. Pour rien, parce que là, ils vont sortir une nouvelle version remasterisée. À chaque fois qu'on achète quelque chose sur eBay, on a l'impression de se faire avoir un peu. Hein. Parce qu'une couple d'années après, ils ressortent d'autres choses, remasterisées, refaites, en tout cas, bon. Alors, voilà, pour ceux qui s'intéressent, ce documentaire devrait sortir bientôt.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. We'll be right back.
moi, je veux avoir le temps de vous donner cette dernière petite nouvelle que j'ai trouvée dans la section des nouvelles insolites. Et je vous parle de Ariana Grande, cette vedette de la pop dont on a parlé notamment en mai 2017.
Oui,
elle avait, dans son spectacle, il y avait eu une attaque, une fusillade.
Ouais, ouais.
Donc, on avait beaucoup jasé d'elle. Et là, elle fait jaser d'elle pour une toute autre raison cette semaine. 1,5 million de dollars pour modifier le tatouage raté d'Ariana Grande. En l'honneur de la sortie de son nouvel album, la chanteuse s'est offert un tatouage, mais rien ne s'est passé comme prévu. Elle s'apprêtait à sortir son cinquième album et elle s'est fait tatouer dans la paume de la main. Déjà là, ce n'est pas une bonne idée de se faire tatouer dans la paume de la main. Elle s'est fait tatouer Seven Rings, qui est le nom de l'album, mais elle s'est fait tatouer en japonais. Mais au lieu d'avoir Seven Rings, elle s'est retrouvée avec un symbole japonais qui signifie « petit barbecue ». En plus, elle est vegan, donc elle n'a pas aimé ça. Il y a un autre tatoueur qui lui a corrigé ça en rajoutant ça, mais le résultat est pire. Donc maintenant, ça lit barbecue japonais doigt. Et il y a une entreprise de détatouage qui lui a offert 1,5 million pour la détatouer. Donc faites attention avec vos tatouages.
Et sur ce conseil, c'était comme ça qu'on termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde. On souhaite un prompt rétablissement à Serge Bradet et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets divertissants.